Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est une petite musique qui monte en cette fin de campagne électorale américaine.
You've quoted General Milley calling Donald Trump a fascist. You yourself have not used that word to describe him. Let me ask you tonight, do you think Donald Trump is a fascist?
Yes, I do. Yes, I do.
Depuis plusieurs jours, ce débat agite l'Amérique. À l'approche de la présidentielle, d'anciens généraux américains, dont certains ont été très proches de Donald Trump, comme John Kelly, qui a aussi été son chef de cabinet, multiplient les alertes.
Certainly, an authoritarian admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist, for sure.
Toujours selon John Kelly, Trump trouverait que Hitler a aussi fait, je cite, de bonnes choses. Des inquiétudes amplifiées par le meeting au Madison Square Garden à New York dimanche soir. Devant 20 000 personnes, Donald Trump n'a pas pris de précautions oratoires pour présenter son programme.
November 5th, 2024, 9 days from now, will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out.
Face à ce champ lexical belliqueux et alors que les télévisions américaines multiplient les débats pour savoir si, oui ou non, le pays risque de sombrer dans le fascisme si Trump est réélu, certains tentent de calmer le jeu, à l'image du maire démocrate de New York.
My answer is no. I know what... Hitler has done, and I know what a fascist regime looks like. I think we could all dial down the temperature.
Alors, peut-on vraiment qualifier Donald Trump de fasciste? Y a-t-il une tentation autoritaire aux États-Unis?
Nos trois invités, Ziad Limam,
bonsoir,
directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, dont la dernière une s'affiche derrière nous. À côté de vous, Anne-Lorraine Bujon,
bonsoir,
directrice de la rédaction de la revue Esprit, et vous êtes conseillère du programme Amérique du Nord, ça tombe bien, pour l'IFRI. Et Géraldine Vosner,
bonsoir,
rédactrice en chef pour Le Point, ancienne correspondante aux États-Unis, et votre ouvrage, votre dernier essai, Les Illusionnistes, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Nous n'avons pas la dernière une du Point, elle sera demain en kiosque.
Alors on entre directement dans le vif du sujet, Géraldine Vosner, est-ce que Trump est fasciste ou on le caricature plus qu'il ne l'est déjà ?
Je comprends la volonté dans ces derniers moments de campagne pour les démocrates de cristalliser sur cette question dans l'espoir sans doute d'attirer les votes des républicains relativement modérés et bon teint. Néanmoins, ici on n'est pas dans un meeting politique, les mots ont un sens et le fascisme, il y a quelques critères quand même de référence historique en Allemagne ou en Italie. Une prise de pouvoir par la force, bah, c'est pas le cas, l'assaut du Capitole, les gens sont pas venus armés, c'était pas un coup d'État armé. C'est voilà, une prise de pouvoir par la force, un parti unique, on voit pas qu'il ait la volonté de l'imposer là-dedans. Une bellicosité vis-à-vis de l'extérieur, une volonté d'expansion, et c'est plutôt l'inverse qu'on observe. Donc je pense pas que le terme soit approprié. Néanmoins, c'est assurément un populiste, et un populisme en train de verser dans ces derniers moments de campagne dans une espèce d'hyperlibéralisme à la Méliès qui est
vous faites référence au président argentin, oui, avec la tronçonneuse. Vous aviez des grimaces quand
oui, mais non, parce que
votre voisine pondérait.
Je ne suis pas sûre non plus que ce soit la bonne question à se poser sur Donald Trump, qu'il admire les hommes forts, il ne s'en est pas du tout caché, il admire Vladimir Poutine, il admire Kim Jong-un, qu'il a des velléités autoritaires, ça me semble indéniable. Mais quand on dit fascisme, ça emmène vers la référence historique européenne, alors qu'en réalité, je pense qu'il faut se référer à l'histoire politique américaine. Et ce qui me paraît évident, c'est que plus ça va, plus Trump puise dans un répertoire de la violence politique proprement américaine, qui est celle du Sud esclavagiste, de la guerre de sécession, de la période de la reconstruction qui a suivi. Donc c'est cette violence raciste et c'est cette haine de l'État. Et ça, c'est très important et ça complique aussi le débat sur le fascisme, parce qu'en fait, il fait appel, notamment en utilisant ses slogans sur le droit des États, à une sorte d'individualisme radical, où on pense toujours que l'État risque d'abuser de son pouvoir. Et c'est, je pense que c'est plutôt sur ce répertoire mais qui est violent et qui est, et qui est dangereux. Néanmoins, c'est pas pour dire qu'il est moins menaçant.
Oui, mais vous êtes d'accord, voilà. Vous êtes aussi populiste ou on n'ose pas dire fasciste? Parce que c'est vrai qu'il y a du racisme et de l'ultranationalisme aussi dans ces déclarations.
Non, je trouve que le mot fascisme est un mot complexe. Comme vous dites tous les deux, ce que vous dites recoupe des réalités différentes et complémentaires. Moi, j'essaie de me baser sur ce que j'entends et oui. sur les faits. C'est un programme d'abord de rupture démocratique, il le dit lui-même, je n'accepte pas la manière dont le système fonctionne, je n'accepte pas la manière dont les institutions fonctionnent. Quand il dit, avec beaucoup d'optimisme, je vais déporter des millions d'individus le premier jour, on est dans le fantasme autoritaire, parce que ce n'est pas possible et ça ne sera pas possible. Donc on est vraiment dans un discours qui consiste à mobiliser, moi je pense, la base dure. Je ne pense pas que le discours est fait pour mobiliser les républicains modérés qui, au contraire, sont un peu effrayés par ce genre de choses. Et deuxièmement, il y a des antécédents, et il a prouvé quand même sur les antécédents, et je pense quand même à l'affaire du Capitole, vous avez un peu... Enfin, oui, ils n'étaient pas armés, mais quand
certains
même, c'était une tentative de prise du pouvoir et d'inversion d'une élection.
Pas concertée.
Oui, mais bon, il y a quand même des images de lui derrière des écrans, en train de regarder la foule avancer. Donc, ça ne l'aurait pas dérangé, quand même. Et c'est ça qui est dangereux. Après, juste une dernière chose, l'Amérique, ce n'est pas que Trump.
C'est ça.
Ce n'est pas que les Républicains. Le même jour, il y a les élections de la Chambre des représentants. Le même jour, il y a 33 députés.
Il y a beaucoup de scrutins.
Des États, il y a des États, il y a des juges. Les juges ne sont pas tous républicains. Donc, c'est plutôt un choc démocratique auquel on risque d'être exposé, mais dans un pays qui est très diversifié et qui n'est pas unitaire dans son approche de la politique.
– Pardon, mais on dit que ce sont beaucoup de mots, mais des mots aux actes, Géraldine Vesner, il n'y a pas loin avec Trump. Pardon,
alors, quand on parle de déportation,
ça veut dire couper et renvoyer éventuellement sans utiliser ce mot-là.
– Ce discours-là, il l'a eu en 2016 avec la même violence et de manière tout aussi caricaturale. Ce n'est pas pour ça qu'il a réussi à agir, parce qu'aux États-Unis, il y a un truc qui est quand même très particulier, c'est le Congrès. Le président américain est très contraint dans les politiques qu'il peut conduire.
Alors, bien mais quelle est la couleur du Congrès? Est-ce qu'elle va changer la couleur du Congrès?
Non, c'est pas évident quand même.
On ne sait pas, on dit plutôt que le Sénat risque de basculer républicain et pour la Chambre des démocrates, on est aussi... la Chambre des représentants,
joli c'est lapsus.
Très incertain. Mais il y a aussi la Cour suprême, mais je laisse terminer. Voilà,
non, simplement, il y a le Congrès, il est très contraint. Et je vais vous donner un seul exemple, parce que pour nous, Européens, c'est ce qu'il pourrait faire en politique étrangère qui nous inquiète, par exemple. Est-ce qu'il va retirer son soutien à l'Ukraine? Mais rappelez-vous, quand Donald Trump, quand il était encore en office, où Biden passe un coup de fil au président ukrainien, il y a 20 personnes qui écoutent, et le truc est enregistré. Il y a des contre-pouvoirs qui sont partout aux États-Unis que nous ne connaissons pas de cette manière-là.
Oui, mais il y a eu un procès en destitution.
C'est mon côté optimiste.
Voilà, il y a eu un procès en destitution sur cette affaire qui était quand même de la corruption caractérisée, une tentative de tordre le bras de Zelensky pour qu'il enquête sur un opposant politique, et ça n'a pas fonctionné. Donc justement, ces contre-pouvoirs, ces garde-fous, ils n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû. Ce président aurait dû être destitué. Et là où moi je pense qu'il y a une menace bien réelle sur la démocratie américaine aujourd'hui, c'est qu'elle ne vient pas que de Trump. Il y a un Congrès qui est assez impuissant parce qu'il est très polarisé, et il y a une Cour suprême qui a pris une décision en juillet dernier qui lui accorde par avance une immunité quasiment totale pour tout ce qu'il pourrait faire. Ça renforce le pouvoir exécutif d'une manière jamais vue dans l'histoire des États-Unis, de telle sorte que moi je pense que oui, le risque que la démocratie américaine bascule si cet homme était réélu est bien réel.
Alors, je vous propose, pour se revenir à la fascination de Donald Trump pour les hommes forts illibéraux, les autocrates éventuellement, qu'on garde une archive parmi les dirigeants qu'il a cités fréquemment. Il y a le Hongrois Viktor Orban, modèle donc. Eh bien, il le recevait en 2019.
Prime Minister, thank you very much for being at the White House. Thank you very much. It's a great honor.
Thanks. Mr. President, are you concerned about democratic backsliding in Hungary under this Prime Minister?
Well, people have a lot of respect for this Prime Minister. He's a respected man. And I know he's a tough man, but he's a respected man. And he's done the right thing, according to many people, on immigration. And you look at some of the problems that they have in Europe that are tremendous, because they've done it a different way than the Prime Minister.
Il arrive à faire des phrases, hein. C'est un peu moins le cas.
Il y a longtemps.
Pour vous, c'est vraiment, là aussi, ce ne sont pas que des mots, c'est un modèle pour le libéralisme.
Mais non, mais il parle d'Orban, il parle de Xi Jinping, il parle de Poutine, il parle de tous ces gens, parce que ça correspond à sa perception à lui du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir centralisé, fort, où il n'y a pas d'emmerdement, excusez-moi du terme, démocratique pour le limiter dans cette révolution du Make America Great Again. Et sur le... Juste un point, c'est la libération de la parole, moi, qui me gêne. C'est-à-dire que, vous savez, le discours... Le rassemblement de New York...
Au Madison Square Garden.
C'est-à-dire on libère la parole raciste. C'est quand même un pays qui a vécu des événements raciaux extrêmement graves. Et quand vous libérez la parole raciste, quand vous autorisez les gens à parler de cette manière-là, vous prenez le risque d'une contre-violence, vous prenez le risque de la déstabilisation, vous prenez le risque... Vous
savez, il y a des romans... l'acte.
Il y a des romans d'anticipation qui ont raconté cette Amérique coupée en deux, avec deux fédérations qui se séparent et qui se font la guerre.
C'est
et
qui, à quoi
je cherche le nom du roman
ça vous reviendra.
Dans 30 secondes, mais ça a été écrit et c'est pas un fantasme pur.
Anne-Laurel Bugeon, là on parle des États-Unis, mais il y a une demande plus globale aussi dans le reste du monde de leaders un peu voilà, forts, autoritaires. Ça ne concerne pas que les États-Unis.
Ah non, ils sont toute une galaxie maintenant à s'inspirer les uns des autres. Donc, on a parlé de Viktor Orban qui inspire Trump et vice-versa. Et on pourrait parler de Bolsonaro et de Javier Milei. Donc, ils sont effectivement plusieurs et ils prennent des idées les uns chez les autres. Je pense qu'il faut aussi voir ce qu'il y a de nouveau dans le phénomène, malheureusement, Trump et la façon dont il inspire d'autres, qui est cette manière de semer la confusion, le doute entre le vrai et le faux, entre ce qui est sérieux et ce qui est pour rire. Il joue beaucoup de cette espèce de connivence avec ses électeurs. Ah non, mais j'ai dit que j'admirais Hitler, mais c'est pour rire, vous savez, c'était juste une blague. Et donc, en fait, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, précisément entre les mots et les actes, on est dans la confusion totale. Donc, on ne sait pas dire le Capitole, c'était un carnaval géant ou c'était une tentative de coup d'État.
Enfin, il n'a pas voulu réformer la Constitution non plus. Enfin, je veux dire, Gérald Mosner, il n'est pas arrivé jusque-là. Ce n'est pas un président qui a balayé le Congrès. Il y a encore des élections.
C'est pour ça que j'étais
mal à l'aise. C'est vraiment une intention qu'il peut avoir dans un mandat.
Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas s'il est complètement antidémocrate et s'il balayera ses institutions. Je constate que pour l'instant, aujourd'hui, quand il a perdu les élections, il a quitté le pouvoir. Il ne s'y est pas maintenu par la force. Il a quitté le pouvoir. Alors, moi, ce qui me frappe, ce que je trouve vraiment déplorable, et c'est l'un des legs terribles qu'il aura fait à son pays et au-delà, aux démocraties, c'est cet abaissement, cette violence dans le débat public, je veux dire, les insultes permanentes, la façon dont il parle de Kamala Harris, de Joe Biden, et qui, en face, provoque en réaction Joe Biden, il y a quelques jours, qui déclarait que les partisans de Donald Trump à ses meetings étaient des ordures. Ouais. On arrive à un degré de violence
et de contamination, et de y compris des gens les plus décents,
qui rend toute perspective de réconciliation assez difficile.
Assez utopique. Vous n'avez pas évoqué les réseaux sociaux et cette caisse de résonance que jouent les réseaux sociaux, notamment celui de son ami Elon Musk, pour la désinformation et pour la propagation de cette parole haineuse.
Non, le cas Elon Musk, c'est surtout l'oligarchie au pouvoir. C'est-à-dire qu'on se moque de la Russie de pré-poutinienne et poutinienne, mais là, on a l'exemple type de quelqu'un qui est milliardaire en plusieurs dizaines d'unités, qui détient un réseau de satellites, qui détient le premier média en réalité aujourd'hui américain, qui est le réseau X, et qui met ça au service d'une candidature. Et on se dit, mais moi, ce qui me frappe dans toute cette histoire américaine, c'est qu'on voit une possible fin de la démocratie dans un pays dont on pensait que la démocratie ne pouvait pas mourir. Et ça nous parle à nous, Européens, puisqu'on le voit aussi dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, etc. On voit que c'est possible que s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, notre fantasme d'une démocratie éternelle peut s'arrêter.
Rendez-vous le 5 novembre. On va passer à notre deuxième actualité. L'interdiction sur le sol israélien d'ici 90 jours de l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, suite à un vote du Parlement israélien, la Knesset, motif des employés suspects de complicité avec le Hamas, une décision qui suscite un tollé international, mais défendue hier à New York par l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies.
These are not aid workers. These are savages who have seized UNRWA Gaza and transformed it into a Hamas chapter. These heinous criminal scandals can no longer be swept under the rug, no longer ignored, that UNRWA Gaza is beyond redemption, beyond saving, beyond reform.
Anne-Lorraine Bugeon, Israël est vraiment isolé à l'ONU sur cette prise de position sur l'UNRWA?
En tout cas, c'est une décision qu'on a vue venir, puisque depuis janvier dernier, il y avait cette suspicion donc, que le Hamas aurait infiltré l'UNRWA. Et donc, on a vu cette décision se préparer. On a vu que l'UNRWA était dans le collimateur du gouvernement israélien. Et ça date même d'avant, en réalité. Et il me semble qu'un certain nombre de puissances ont tenté de mettre en garde Israël contre cette décision qui est très grave, parce que c'est une violation de la charte des Nations Unies. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, je crois, ont tenté d'empêcher cette décision, mais rien n'y a fait. Oui, isolé, oui, et c'est vraiment un défi qui est lancé au système onusien, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, je crois.
Alors, on va évoquer avec vous, Fanny, l'accusation. 19 membres de l'UNRWA auraient participé au massacre du 7 octobre avec le Hamas. Une enquête a été lancée. Je rappelle qu'il y a à peu près 30 000 employés de l'UNRWA. Que dit l'enquête ?
Eh bien, à ce stade, elle estime que sur les 19 personnes accusées par Israël, une, faute de preuves, a été innocentée, elle a été réintégrée à l'agence. Pour neuf autres, il n'y avait pas de preuves suffisantes. Et puis, pour les neuf derniers, en revanche, l'ONU estime qu'ils pourraient avoir participé au massacre du 7 octobre dernier, 2023. Elle emploie le conditionnel l'ONU parce qu'elle n'a pas eu accès directement aux preuves qui sont restées, dit-elle, en possession des autorités israéliennes. Néanmoins, les enquêteurs de l'ONU ont eu suffisamment d'informations pour suspecter eux-mêmes ces neuf employés qui seront donc licenciés d'après l'UNRWA. Ils ne peuvent pas travailler pour l'UNRWA, insiste le patron Philippe Lazzari, qui rappelle que le personnel de l'agence doit respecter un principe de neutralité humanitaire. Réaction du porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, qui avait déclaré à l'époque sur X, « Votre agence humanitaire a atteint un nouveau niveau désastreux. Il est temps que le monde voit votre vrai visage. » C'est lui-même finalement 9 employés qui sont effectivement suspectés de complicité avec le Hamas, que ça ne justifie pas aussi la décision d'interdire l'agence prise par Israël.
Non, je ne pense pas que ça justifie. D'abord, encore une fois, je pense que c'était une enquête légitime de s'interroger. Encore faudrait-il qu'on ait des éléments de l'accusation qui doivent être amenés par les accusateurs. Donc, bon, il y a eu certainement une perméabilité, ça, personne ne le discute. Le Hamas est présent dans la société gazaoui, donc ça, personne ne le discute. Après, si c'est 9, si c'est 10, si c'est 15, sur 15, 20, 30 000 employés de l'UNRWA, il y a quand même une petite nuance. Après, la deuxième chose, moi, je pense que c'est un dossier extrêmement politique, en réalité. Parce que l'UNRWA, c'est quoi ? L'UNRWA, c'est les réfugiés. Et donc, pour une partie de la classe politique israélienne, mais visiblement une grande partie de la classe politique israélienne, il faut régler la question des réfugiés. Et une manière de régler la question des réfugiés, c'est-à-dire une manière du fait... Ils sont identifiés, tous ces 6 millions de réfugiés entre Gaza, territoire et pays arabes. Ils ont une fiche UNRWA, donc c'est là que ça se joue. Si on enlève l'UNRWA, eh ben, la question des réfugiés serait censée se résoudre d'une certaine manière par magie. Et la deuxième chose, moi je veux bien les accusations, mais c'est quoi le plan B ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le nord de Gaza ? Qu'est-ce qu'on fait en Cisjordanie ? Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet appareil qui va disparaître
Alors justement,
au détriment de civils qui sont déjà au bord de la famine.
Alors, s'il n'y a pas de plan B, est-ce qu'Israël pouvait prendre cette décision sans afficher une solution alternative ?
C'est pour ça que le timing de la décision est complètement aberrant, parce que même si on la comprend, effectivement, il n'y a pas de plan B.
Sur le principe, vous dites, c'est légitime, mais pas sur la manière dont c'est fait.
Sur la manière, je veux dire, il n'y a pas de plan B. Et pourquoi il n'y a pas de plan B ? Parce que l'ONU s'est assuré qu'il n'y ait jamais de plan B. C'est ça aussi, c'est le bras de fer entre Israël et Antonio Guterres, qui est un antisioniste assez assumé et convaincu, et qui, quand les soupçons sont montés sur l'UNRWA, et ils ne datent pas d'aujourd'hui, vous dites quelques années, mais ça fait 20 ans. En 2004 déjà, il y avait des preuves de l'infiltration, notamment du réseau scolaire. On n'a pas de preuves, on a quand même... Ils se sont filmés, certains employés de l'UNRWA, en train de jeter des cadavres de jeunes après les massacres du 7 octobre. Les tunnels sous les écoles, sous les hôpitaux opérés par l'UNRWA. Et comme vous le dites, c'est parfaitement compréhensible. Ce sont des milliers d'employés locaux qui vivent dans un écosystème gazaoui qui est soumis à la férule d'une dictature, la dictature terroriste du Hamas. Donc évidemment, il y a des liens et ils sont bien plus larges que quelques personnes, une dizaine de personnes. C'est de notoriété publique. Qu'a fait l'ONU ? L'ONU n'a rien fait. Des responsables de l'UNRWA eux-mêmes, en 2009, avaient lancé l'alerte. Il était possible de construire une alternative, peut-être en séparant en deux branches, la branche humanitaire, la branche scolaire, peut-être en créant une nouvelle agence sous l'égide de l'UNICEF, du HCR. Il y avait des choses à faire, rien n'a été fait.
Sur la neutralité de l'ONU, Anne-Lorraine Bujon, est-ce qu'il y a discussion là-dessus? Est-ce que l'ONU a perdu
cette neutralité? L'ONU est vraiment antisioniste, comme le dit votre voisine.
Je ne dis pas l'ONU, Monsieur Guterres.
Moi, ce qui me semble très grave, si vous voulez, c'est que dans une série de conflits récents, et Gaza, c'est le dernier en date, effectivement, on met en cause l'ONU en faisant presque une des parties au conflit plutôt que de la respecter comme un tiers garant, un tiers neutre. Donc on sait aussi, par exemple, que là, il y a une base de la FINUL au sud de Liban, où des chars israéliens ont enfoncé la porte, des soldats, des casques bleus ont été blessés. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on s'en prend vraiment au système du droit international, et que c'est très grave. En fait, c'est depuis un an de guerre à Gaza, c'est le droit de la guerre, c'est le droit international, maintenant c'est le droit international humanitaire. C'est quand même un des acquis majeurs de la Seconde Guerre mondiale, de dire à côté des combats, il y a un champ, il y a un terrain humanitaire. Là, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, regardez
à Gaza
quand même cette déclaration.
Il y a 2 millions de personnes déplacées, il y a un risque de famine. Qui va aider les Gazaouis?
Alors, regardez quand même cette déclaration de Francesca Albanès, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Elle dit: Israël a pour objectif l'expulsion complète ou l'éradication des Palestiniens de leur terre. Yeliam, est-ce que ce genre de déclaration est nécessaire? Est-ce qu'elle n'enflamme pas une situation qui l'est déjà suffisamment? Et est-ce que l'ONU est dans son rôle?
Alors, je ne suis pas dans l'esprit de Mme Albanès, mais c'est un discours qu'on entend en Israël. Hein. Je veux dire, c'est pas spectaculairement nouveau de penser qu'une partie de l'opinion de la classe politique israélienne, en particulier à l'extrême droite, rêve de recréer un grand Israël où les Palestiniens disparaîtraient par une espèce de magie entre l'Égypte, la Jordanie, etc. Ça, c'est là-dessus. Deux, l'ONU, c'est pas une entité. Enfin, l'ONU n'est que la représentation des États membres. C'est-à-dire, ce que fait l'ONU, les résolutions, le code international qui est créé via l'ONU, c'est l'émanation de ce que les États membres créent.
Guterres n'a pas de prise de position personnelle.
Guterres, c'est un secrétaire général. Il administre une administration. Il a des opinions, certes, personnelles. Oui, mais je veux dire, sur la question israélienne, tous les grands, le Sud, grosso modo, a une opinion qu'on retrouve à l'ONU. Je veux dire, ce qui me gêne, c'est de dire l'ONU pense. L'ONU ne pense rien.
Personne ne dit l'ONU pense, mais la position de M. Guterres, M. Guterres fait énormément pour délégitimer l'institution qu'il est censé représenter. Quand il reçoit le président iranien sans un mot pour la situation des femmes dans le pays, quand il se prosterne devant Vladimir Poutine, qui est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, mais il sort complètement de son rôle.
Une dernière question. La solution politique à deux États s'éloigne dramatiquement encore plus après ce vote du Parlement, sauf le vote des députés arabes et communistes.
Vous avez dit solution politique. Ce qui est terrible, c'est de voir que cette guerre dure depuis un an, qu'elle s'étend, qu'elle est toujours plus dévastatrice, toujours plus destructrice, et qu'on ne parle pas du jour d'après. Personne ne parle de la sortie de conflit. On ne comprend pas quels sont les objectifs de guerre. On est entré dans une guerre totale. S'il faut éradiquer tous les terroristes qui sont au sein de sociétés, est-ce que ça veut dire qu'on en aura fini quand ces sociétés n'existeront plus? C'est vraiment effrayant.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ces deux débats sur l'actualité internationale. Merci encore.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.